Comprenez ce qu'est la pratique du bouddhisme. Quiconque souhaite tirer profit du bouddhisme plutôt que simplement découvrir quelques faits intéressants à son sujet doit se poser la question suivante. Comment puis-je prendre ce remède spirituel ? Comment puis-je prendre ce remède spirituel ? Comment puis-je appliquer les préceptes de Shakyamuni à ma propre vie d'une manière qui réduise mon agitation et mon insatisfaction pour ensuite les neutraliser et finalement les éliminer complètement ? La réponse réside dans la pratique spirituelle qui prend trois formes dans le bouddhisme. La conduite éthique, la méditation et la sagesse qui en résulte, la dévotion.
La parole du blessé. Comme l'activité intellectuelle a toujours occupé une place prépondérante dans l'histoire bouddhique, il serait en effet tentant de considérer le bouddhisme comme une philosophie, plutôt que comme une religion. Mais le Bouddha Shakyamuni a lui-même averti du danger de trop s'engager dans des spéculations intellectuelles, au point de perdre de vue le but de son enseignement. Cette attitude est clairement illustrée dans l'histoire racontée maintes et maintes fois d'un moine du nom de Malunkyaputta. Celui-ci alla trouver un jour le Bouddha pour se plaindre du fait que le maître n'avait jamais traité de questions philosophiques comme « L'univers a-t-il un début et une fin ?» et « Le Bouddha existe-t-il après la mort ?» Malunkyaputta déclara que si le Bouddha ne répondait pas une bonne fois pour toutes à ces questions, il mettrait fin à sa formation de moine bouddhique et reprendrait sa vie de laïque. En réponse, Shakyamuni décrivit la situation hypothétique suivante. « Suppose, dit-il, qu'un homme vient d'être blessé par une flèche empoisonnée. Ses parents, soucieux, trouvent un médecin habile qui peut lui retirer sa flèche. Mais le blessé refuse de laisser le docteur le soigner avant d'avoir reçu des réponses satisfaisantes à une longue liste de questions. « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir à quelle caste appartient celui qui m'a blessé, avant de connaître son nom, sa taille, de savoir de quel village il vient, de savoir de quel bois la flèche est faite, etc. » Il est clair qu'un tel imbécile mourrait bien avant que toutes ces questions aient obtenu de réponse. « De même, dit le Bouddha à Malunkyaputta, quiconque dit « Je ne mènerai pas de vie spirituelle avant que le Bouddha ne m'ait expliqué si l'univers est éternel ou s'il ne l'est pas, ou si oui ou non le Bouddha continue d'exister après la mort, mourrait bien avant de pouvoir recevoir de réponses satisfaisantes à ces questions. La vie véritablement spirituelle ou religieuse ne dépend pas du tout de la manière dont on répond à ces questions. Car, comme le fit remarquer Shakyamuni, que l'univers soit éternel ou non, vous serez toujours confronté à la naissance, à la décrépitude et à la mort, de même qu'aux soucis, aux chagrins et au désespoir, contre lesquels je vous prescris dès maintenant l'antidote. »
Il s'agit de vivre une vie éthique. La conduite éthique constitue une composante essentielle du sentier spirituel bouddhiste depuis que le Bouddha historique a pour la première fois enjoint ses moines et ses nonnes de s'abstenir de certains comportements parce que ceux-ci les distrayaient de leur quête de la vérité. Durant la vie du Bouddha, ses disciples rassemblèrent et codifièrent ses préceptes qui finirent par former le code moral, ce Vinaya, qui, sous une forme plus ou moins identique, continue de façonner la vie monastique des bouddhistes depuis 2500 ans. Des règles plus succinctes ont été dérivées de ce code pour les adeptes laïcs, c'est-à-dire pour les bouddhistes qui ne sont pas des moines ou des nonnes. Et ces règles sont restées remarquablement identiques d'une tradition à l'autre. Pour en savoir davantage sur la conduite éthique, écoutez le chapitre 12. Bien loin d'arrêter des normes absolues du vrai ou du faux, les règles de conduite éthique du bouddhisme ont un objectif entièrement pratique. Il s'agit de faire en sorte que les adeptes restent concentrés sur l'objectif de leur pratique, qui consiste à parvenir à discerner la nature de la réalité. Pendant 45 ans d'enseignement, le Bouddha a trouvé que certaines activités contribuent à l'augmentation du désir ardent, souvent traduit par le mot « soif », de l'attachement, de l'agitation et de l'insatisfaction, et entraînent des conflits entre les personnes et dans la communauté en général. Par contraste, D'autres comportements permettent de garder l'esprit calme et concentré et contribuent à une atmosphère plus favorable à la réflexion et à la réalisation spirituelle. C'est à partir de ces observations, plutôt qu'à partir de points de vue moraux abstraits, quels qu'ils soient, que ces règles de conduite éthique ont émergé. Dans l'imagination populaire, le bouddhisme est sans le moindre doute une religion de méditation. Après tout, qui n'a jamais vu de statue du Bouddha assis les jambes croisées, les yeux mi-clos et profondément plongé dans la réflexion spirituelle, ni vu aucun de ses nombreux titres sur les bases de la méditation bouddhique disponible aujourd'hui dans les rayons des libraires. Pourtant, beaucoup de gens comprennent mal le rôle que joue la méditation dans le bouddhisme. Ils pensent à tort qu'il faut se retirer des affaires de la vie ordinaire pour se rendre dans un royaume intérieur calme, détaché et intact, jusqu'à ce que l'on ne ressente plus aucune émotion ni préoccupation au sujet des choses qui avaient avant de l'importance. Rien, pourtant, ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Nous traitons d'autres idées erronées sur le bouddhisme et sur les pratiques bouddhiques au chapitre 16. N'oubliez pas. Le véritable objet de la méditation dans le bouddhisme n'est pas d'apaiser l'esprit, bien que ce résultat puisse se produire et qu'il soit certainement favorable au processus de méditation, pas plus que de devenir détaché ou indifférent. Au contraire, l'objectif est d'obtenir une compréhension profonde et intime de la nature de la réalité et de soi-même, une vision qui est libératrice. Nous en parlons dans la section « Comprenez la philosophie du bouddhisme » plus haut dans ce chapitre. Cette vision profonde et intime vous permet de voir qui vous êtes vraiment et ce qu'est véritablement la vie, et elle vous libère une bonne fois pour toutes de la souffrance. Pour en savoir davantage sur cette vision profonde qu'il est convenu d'appeler réalisation spirituelle, éveil ou encore illumination, écoutez le chapitre 10. La méditation favorise cette compréhension intime car elle apporte une attention focalisée et soutenue aux mécanismes de votre esprit et de votre cœur. Au premier stade de la méditation, vous passez la plus grande partie de votre temps à être autant que possible conscient de votre expérience. C'est une pratique bouddhique presque universelle qu'on appelle l'attention. Vous pouvez aussi cultiver des qualités de cœur positives et bénéfiques comme la bonté et la compassion, ou pratiquer la visualisation de figures et d'énergies bénéfiques. Mais au bout du compte, le but de toute méditation bouddhique est de découvrir qui vous êtes vraiment et, ce faisant, de mettre un terme à votre quête agitée et à votre insatisfaction. Pour en apprendre davantage sur la méditation, écoutez le chapitre 7. Bien que le Bouddha ne l'ait pas explicitement enseigné, la dévotion est depuis longtemps une pratique bouddhique centrale. Il ne fait aucun doute que celle-ci provient de la dévotion spontanée que les propres disciples du Bouddha ont ressentie pour leur maître bon, sage et compatissant. Après sa mort, les disciples ayant un penchant dévotionnel ont dirigé leur vénération sur les anciens éveillés de la communauté monastique et sur les reliques du Bouddha qui furent conservées dans des monuments appelés stupa. Alors que le bouddhisme se diffusait à travers l'Inde et finalement dans d'autres pays, l'objet primaire de la dévotion devint le triple joyau du Bouddha, du Dharma et du Sangha, c'est-à-dire du grand maître et de ses successeurs, de l'enseignement lui-même, ou doctrine, et de la communauté des moines qui conservent et défendent l'enseignement. À ce jour, tous les bouddhistes, religieux ou laïcs, prennent comme refuge le triple joyau. Pour en savoir plus sur ce triple joyau, encore appelé triple refuge, écoutez le chapitre 6. Finalement, dans certaines traditions du bouddhisme, la tendance humaine naturelle à vénérer et à idéaliser a donné naissance à des figures transcendantales qui personnifiaient des qualités spirituelles particulièrement désirables. En substance, selon ces traditions, l'adepte qui exprime une dévotion sincère à ces figures, en s'imaginant en train de fusionner avec elles et, ce faisant, en assumant ses qualités éveillées, peut progressivement transformer ses qualités négatives en qualités positives pour finalement obtenir l'éveil complet pour lui-même et pour les autres. L'étude et la réflexion aident à comprendre clairement l'enseignement du Bouddha, mais la dévotion forge une connexion sincère avec la tradition, ce qui permet à l'adepte d'exprimer son amour et son appréciation au maître et à l'enseignement, et en retour, de ressentir leur amour et leur compassion. Même des traditions comme le zen, qui semblent moins profondes, possèdent de puissants courants sous-jacents qui se trouvent exprimés dans les rituels et les cérémonies, mais que les nouveaux adeptes ne perçoivent pas toujours tout de suite. En fait, certaines traditions, comme celle du bouddhisme de la terre pure, sont avant tout dévotionnelles. Pour en savoir plus sur les différentes traditions du bouddhisme, y compris le zen et le bouddhisme de la terre pure, écoutez le chapitre 5.